8h. Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires.
Salut Alain.
Salut Alain.
Hey Gilbert, t'étais dans les souvenirs un matin?
Tu te rappelles de Brian Fogarty, Clint? Étais-tu bon?
Étais-tu talentueux,
ce gars-là? C'était épouvantable. Sérieusement, là.
Écoute, en Ontario, là, je me souviens, on disait qu'il était meilleur que Bobby Orr dans le temps.
Ah non, mais les gars,
Les gens n'ont aucune idée comment. Il y avait un coup de patin, ce gars-là. Là, il volait sur la glace. Il ne forçait pas. C'était. Mais tu l'as bien décrit. Écoute, à Québec, là, il se tenait avec John Cordick quand Cordick a joué pour les Nordiques.
C'est des chums. Oui, ils se tenaient ensemble. Mais c'est ça, les deux font la
paire. Je pense qu'ils restaient même ensemble à Québec pour dire
ça. Ça devait être beau dedans.
Il a fini concierge dans une école, puis ils l'ont trouvé mort un soir.
C'est triste. Mais on en parlait pendant la pause. Le documentaire de Last Dance rappelle très bien l'histoire de Dennis Rodman aussi avec les Bulls de Chicago.
Ouais.
C'en est un autre qui est parti sur une go. Là, un moment donné, il a demandé à son coach, à Phil Jackson, « Écoute, Phil, faut que j'aille à Vegas. J'ai besoin de me ressourcer. » Puis ils l'ont perdu là. Puis il a demandé, il est revenu. Puis à un moment donné, ils ont ouvert la TV. Puis il était reparti. Il est débarqué à WCW. Il est rendu à la lutte. Un autre spécial.
Avec Carmen Electra, t'as oublié un détail important.
Avec Carmen Electra, effectivement.
Quand même une bonne raison.
Souvenez-vous qu'il était devenu émissaire ou ambassadeur des Américains auprès de la Corée du Nord.
Mais c'est drôle parce que ce gars-là a viré bout par bout. Hein. Dennis Rodman, moi, je l'ai connu très tôt. Là. Il était jeune, il jouait pour les Pistons de Détroit.
Il a commencé sa carrière
avec les Pistons à Détroit. Puis dans le temps, les Pistons avaient un bon club. Moi, j'ai joué avec les Red Wings et tout ça. Puis on les côtoyait pas, mais on suivait ça beaucoup. Puis il était... Petit gars tranquille, il arrivait, tu sais, pas de trouble, mais par la suite, baptême, incroyable, là, qu'est-ce qui s'est produit avec lui.
Ah oui, il y avait de la misère à passer dans le détecteur de métal. Là.
Avec les Bulls, il est devenu. Mais dans ce temps-là, t'en avais des spaces dans le monde du sport, là, dans ce temps-là. Là. C'était assez spectaculaire, tu sais. Brian Fogarty, écoute, je t'écoutais en parler tantôt, là, je le revois, là, c'était un pauvre gars, honnêtement, tu sais, il.
Toujours à mauvaise place, mauvais moment. Je te dis, l'affaire du safari avec son char, là, il dit, voilà, j'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bumper? Ah, c'était un lion qui a voulu me mordre mon bumper, il était avec son char dans le safari, puis le lion m'a mangé son bumper de Dodge Stealth. Ça arrive juste à toi, ça. Sérieux.
Il a pris toutes les mauvaises décisions dans sa vie. C'est pas compliqué, là. Il a pris toutes les mauvaises décisions.
Effectivement. J'espère que le Canadien a pris une bonne décision lorsqu'ils ont procédé au rappel de Joshua Roy hier. Tu étais surpris de celle-là, Alain, et à quoi tu t'attends de Roy sur la patinoire au cours du voyage?
Ouais, ça m'a un peu surpris parce qu'on en a parlé hier matin et on se demandait là, s'il n'était pas en train de reculer, lui, dans l'organisation. Mais d'après ce que je peux voir, il y a un bon début de saison avec le Rocket. Ça m'a surpris, oui et non. Je vais vous avouer que l'autre qu'ils ont rappelé, le défenseur, j'ai aucune idée c'est qui.
Marc Delgado.
Je pourrais pas. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas si. Non, je vais me dire Anthony.
C'est correct. Moi, tu sais, on le connaît pas, on l'a pas vu.
Mais on l'a vu au camp d'entraînement.
Ouais, puis on l'a vu dans la Ligue nationale quand même, avec les Prédateurs aussi.
Ouais, mais en même temps, tu te rappelles-tu, quand tu regardais les Prédateurs, tu regardais-tu Delgado à défense?
Non, mais je l'ai vu au camp d'entraînement quand même.
C'est un défenseur, quand même, petit format, bon manieur de rondelle, qui va un distributeur de rondelles. Tu sais, c'est un style Victor Mété un petit peu.
Ouais.
C'est ça, Mark Delgado.
Un petit peu plus gros, là.
Mais tu sais, c'est le style de jeu là, qui ressemble un peu à ça. Il va bouger la rondelle de belle façon. C'est un gars qui, je pense, comme 7-8e défenseur, c'est un gars de profondeur qui peut te rendre service à court terme. Puis présentement, moi, la lecture que j'en fais, c'est que présentement, on est à l'aise avec Struble et Jack Eye. On va les faire jouer sur la route. À moins d'une blessure, je pense pas qu'il va jouer. Alors, en contrepartie, on aurait pu rappeler Adam Engstrom, mais au lieu de ça, il va jouer 25 minutes à l'avant.
Qu'est-ce que tu réponds, Tony, aux gens qui disent « Le Canadien priorise encore le Rocket et on n'a pas voulu déplumer le Rocket et c'est la raison première et principale pourquoi on a décidé de ne pas rappeler Adam Engstrom? »
Ben, c'est trop tôt dans la saison pour dire ça. Moi, je pense que plus la saison va avancer, plus ce sera le Canadien qui sera favorisé dans toutes circonstances. C'est juste que là, présentement, on n'a pas besoin de Engstrom pour jouer. On a juste besoin d'une police d'assurance.
C'est juste ça.
Bien
mieux de rester à Laval puis jouer les grosses minutes que venir s'asseoir sur le banc et manger des pre-game meals avec le Canadien. C'est ça, là.
Moi, je pense... L'autre chose, là, ça, c'est discuter avec l'entraîneur, avec Pascal Vincent. On ne sait pas ce que Pascal Vincent a dit à Kent Hughes puis à la direction du Canadien. Il aurait peut-être dit, écoutez, je pense pas que le jeune actuellement, ça serait y rendre service de l'amener dans la Ligue nationale. Là. Tu sais, il y a des choses. Souvent, on a un nom, tu sais, mettons, on va te donner l'exemple Fowler. Allons, on capote, c'est Fowler, on l'aime. Puis dès qu'il y a un gardien qui va bien, alors on va rappeler Fowler. Non. Les clubs ont des plans. Puis tes gars comme ça, ben ça va jouer dans la Ligue américaine parce qu'il faut qu'ils jouent des minutes.
Mm-hmm.
Alors, on va rappeler un gars. Le gars qu'on a rappelé, là, il a un peu d'expérience avec Nashville, ça fait qu'il connaît la Ligue nationale, ça va être parfait. Puis comme dit Anthony, il va être là comme 7-8, ça fait que si on a besoin de lui. Puis s'il joue pas, c'est pas plus grave, mais de toute façon, il fait pas partie des plans, lui. Ça
exact.
Fait
que... Et je pense que dans toutes les décisions, le Canadien de Montréal est favorisé par rapport au Rocket de Laval. Je pense pas qu'à ce point-ci, de la reconstruction, dans où est-ce que le Canadien est rendu, qu'on va prendre une seule décision cette année en se disant « Mais là, le Laval... » Non, ça sera toujours axé sur Montréal.
Oui.
Mais
ben
je
oui.
pense que c'est axé sur Montréal parce qu'on veut qu'Adam Engstrom poursuive son développement individuel pour lui. Et c'est la raison pour laquelle qu'on veut qu'il continue à jouer des matchs en bas. On veut pas faire le yo-yo avec lui. Fait que c'est comme si on priorisait Montréal, mais dans le futur. C'est un peu comme ça, ma lecture
de la situation. S'il arrive de quoi, là, tu sais, en bout de ligne, puis si, mettons, une couple de défenseurs qui tombent au combat, puis c'est Engstrom qui est le meilleur joueur à Laval, puis on a besoin de lui pour jouer, c'est sûr que c'est lui qui est rappelé, là.
Ben oui.
C'est sûr que c'est lui qui est rappelé, là. Puis Laval, ben, ils s'arrangeront, là. C'est de même un club ferme, Tony. T'es assez longtemps là-dedans. À un moment donné, t'as pas. C'est bien beau, hein, club ferme, mais c'est le gros club qui compte, là, en bout de ligne.
Puis dès que le club de la Ligue nationale est plus ou moins proche des séries, pour accéder à ça, immédiatement, toutes les décisions vont être orientées vers le grand club. C'est tout à fait
sûr.
Normal.
Ben oui, c'est normal.
Tout à fait normal.
Ben oui, puis le Rocket, ce qu'ils vont faire, c'est un effet domino. Puis le Rocket vont retourner vers les Lions de Trois-Rivières.
C'est ça.
Ils vont aller rappeler quelqu'un qui est là-bas. C'est comme ça que ça marche.
Quoi. Exact. Mais ben, je pense que l'année passée, justement, ils ont été chercher un joueur important des Lions, puis ils ne l'ont pas fait jouer. Une histoire comme ça, là, en fin de saison, parce que le Rocket, il avait besoin de quelqu'un. Puis les Lions, ben, ils ont perdu un gros joueur.
C'était Vincent Sévigny, le défenseur.
C'est ça. Merci. Ouais. Je savais qu'il y avait une histoire par rapport à ça. Hey, on a vu Kirby Dack sur la patinoire, même s'il a manqué à l'appel au cours des dernières rencontres, il s'est entraîné avec ses coéquipiers, on devrait le voir au cours du voyage. Ça va être intéressant, je pense, de reformer un trio peut-être plus à caractère offensif avec Dak. T'sais, sans dire qu'il était mauvais depuis le début de la saison, il a encore des choses à prouver, il faut qu'il reprenne son rythme vrai, mais il a encore des choses à prouver dans sa dernière année de contrat avec le Canadien.
Ah oui, c'est sûr. Il était mieux un peu que ce qu'on pensait, peut-être, ou que ce qu'il nous avait montré. Mm-hmm. Mais là, tu sais, il vient de manquer une semaine à peu près. Là. Fait que là, tu sais, on va-tu dire, ça va y prendre 2-3 matchs pour se la remettre dedans. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'avec Kirby Dack, c'est un éternel recommencement. Tout le temps. Là, il rate une semaine. Tu sais, c'était correct ce qu'il faisait, là, mais il faut dire que nos attentes étaient plutôt basses. Là. Fait que là, il revient. Bon, est-ce qu'il va jouer à soir? On ne sait pas. Il va jouer sur le voyage, semble-t-il. Là. Mais est-ce qu'il va jouer à soir? On ne sait pas. Soit actif, là, ça va dire, ben là, ça va prendre, il a pas joué depuis 10 jours, ça. Oui, c'est ça un peu, là. T'sais, il va falloir que Mané ça débloque de façon significative dans son
ben,
cas.
Mais s'il est prêt, Alex, je l'envoie-tu dans le line-up à soir?
Ah, s'il est prêt, ben oui. Ben oui,
moi honnêtement, prêt, là, tu sais, puis s'il est prêt, puis tu sais, tu dis une semaine, oui, je comprends, mais une semaine, c'est pas si pire, là. Tu sais, oui, t'es un petit peu rouillé, mais 2-3 bons entraînements.
Ouais, mais gars, Gilbert, il a passé l'été en réhabilitation, puis
ouais.
À guérir une blessure.
Oui, mais il est arrivé au camp d'entraînement en bonne forme, là, tu sais, puis il s'est entraîné depuis l'année passée qu'il est blessé, fait qu'il a eu le temps pas mal de récupérer, c'est sûr, là.
Oui, mais la game shape, puis il est patiné en rond.
Ouais, je le sais, malin, moi, mais comment tu vas aller chercher la game shape? Tu vas pas
ben,
chercher.
Faut que tu joues.
Ben, c'est ça.
S'il peut jouer ce soir, est-ce que c'est Roy qui ne joue pas ou c'est Veleno qui est cop?
Avec qui qu'on va avoir plus?
Ben, Roy jouera pas au centre, donc c'est Veleno, automatiquement.
Moi, je pense que c'est Veleno qui sort, puis on va laisser Roy sur line-up, sur ce ligne-là.
Dak pourrait jouer à l'aile.
Ouais, mais je pense pas qu'on est prêt à faire
non,
ça tout
mais
de suite.
Puis on va voir qu'est-ce que ça peut donner, là, Bolduc avec Roy et Dak, qu'est-ce que ça peut nous donner d'un coup que ça clique. Peut-être que, tu sais, je sois Roy, là. Ça fait plusieurs chances qu'il y a, là. Et à un moment donné, il faudrait qu'il aboutisse, là.
Non, où tu gardes Veleno, tu le places à l'aile, mais Dak va jouer au centre. Moi, j'ai l'impression.
Okay. À l'aile, au détriment de Joshua Roy. Tu le rappelles de la balle, puis tu le fais.
Ben, t'as pas le choix, là. Je veux dire, 13 attaquants. Ça te prend 13 attaquants, 7 défenseurs vont te tourner dans l'Ouest d'une semaine, là. T'sais, 2 blessures, ça peut arriver dans le cours d'un match, puis t'es déjà dans le trouble le lendemain. Et 2 matchs en 2 jours, là, ouais. Ça peut être compliqué. Rappeler un joueur à temps pour Edmonton si t'en perds 2 ce soir. Là.
Ah, c'est sûr. Évidemment, touche du bois, puis on espère que ça arrivera pas. Une chose qu'on a perdu, par contre, c'est la franchise des Expos. J'ai hâte de t'entendre, Alain, sur notre question du jour après la pause. Qui a tué les Expos de Montréal? Est-ce que c'est Jeffrey Loria, David Simpson? Est-ce que c'est les actionnaires ou le gouvernement du Québec? Est-ce que c'est Claude Brochu? Est-ce que c'est la grève de 94? Est-ce que c'est toutes ces réponses? Est-ce que c'est autre chose? J'ai hâte d'entendre Alain Crête dans deux minutes. Alain, je sais pas si tu as eu la chance de voir le documentaire, mais sinon...
Non, je vais le regarder aujourd'hui.
Tu regarderas, c'est très, très bon. Selon toi, qu'est-ce qui a causé la perte des Expos de Montréal?
Écoute, un peu tout ce que tu as mentionné avant d'aller à la pause, mais moi, il y a une chose. Tu sais, je regarde les Blue Jays, puis là, on peut parler des Nordiques. L'Avalanche a annoncé qu'elle allait porter le chandail des Nordiques pendant cette match. Tu sais, t'as pas personne, pas de gens d'affaires, personne qui était prêt à embarquer dans l'aventure. Alors, regarde ce qui se passe avec les Blue Jays de Toronto. Tu sais, Rogers investit des millions de dollars dans l'équipe et dans le stade également. Ils ont fait de grosses rénovations au stade au Rogers Center. Ils ont investi, ils ont donné plus de 500 millions à Guerrero. Ils ont attiré des agents libres. Springer s'en est un. Max Scherzer, c'est... Tu sais, à Montréal puis à Québec, pour les Nordiques, t'avais pas de gens d'affaires qui étaient intéressés à aller au bat pour ça. Ça les intéressait pas. On peut bien parler de Laurier, on peut bien parler de la grève de 94, on peut bien parler d'un paquet d'affaires, là. Mais t'avais pas personne à qui s'intéressait.
Pas levé la main, personne. T'as raison, Alain. Personne n'a levé la main. C'est facile de chialer après.
C'est ça. Et l'autre chose, tu sais, il faut que les gens sont là, puis nos expos, puis qui a tué les expos. Le public a sa part de responsabilité là-dedans. Je vais te dire, là, il y a des lundis soirs au baseball, c'était tranquille encore là, au Stade olympique,
il y avait des soirées de 4 000, 5 000 personnes.
Oui. Je vais vous donner un exemple. Les Blue Jays à Toronto, là, l'an dernier, ils avaient une saison bien ordinaire. Ils ont eu de la misère. Il y avait une moyenne de 33 000 spectateurs.
Oui, monsieur.
Cette année, ils ont fini premier, 35 000. Ça veut dire que pas une grosse différence, là. Puis après ça, c'est 37 000, puis 32 000, puis il attire 2-3 millions de spectateurs par année. Fait que, tu sais, il y a un intérêt. Fait que dans ce temps-là, peut-être que c'est plus intéressant pour un homme d'affaires d'investir parce qu'il y a un intérêt.
En même
à
temps,
Montréal, là...
Je me dis, j'étais jeune, là, puis moi, j'allais aux expos quand mes parents décidaient qu'on allait aux expos, là. Mais si la grève de 94 combinait la vente de feu de 95, ça se peut que ça en ait écœuré une maudite gang.
Ah ben oui. Toutes nos joueurs sont partis.
Tu sais, quand t'as pas de produit sur le terrain, on voit ça que le CF Montréal, là, on vend nos meilleurs joueurs tout le temps, ça fonctionne pas, là.
Non, mais si 94, mettons t'as quelqu'un, là, une entreprise ou un milliardaire québécois qui décide, moi j'ai investi dans le baseball. Il dit, OK, 94, on a manqué notre coup, là, mais je ramène le noyau l'an prochain pour qu'on se reprend l'an prochain en 95. Mais tu sais, c'est pas arrivé. Là, on s'est dit, oh mon Dieu, il faut vendre l'équipe parce que là, on n'a plus de revenus, Il n'y avait personne qui était intéressé. Mm-hmm. Fait que, tu sais, puis là, on a vendu ça au premier qui est passé, Loria, puis ça a fait ce que ça a fait. Puis le baseball, tu sais, c'est un peu tout le monde qui est responsable de ce qui est arrivé aux Expos de Montréal. Là. C'est pas là. Et j'ai inclus le public aussi. Tu sais, s'il y avait eu 35-40 000 personnes là, de moyenne par année, ben, les Expos sont encore à Montréal.
Mm-hmm. C'est vraiment, en tout cas, moi, ça me déchire le cœur. Hier, pour vrai, j'étais fâché d'écouter le documentaire parce que ça rouvre une plaie qui a été ouverte il y a plusieurs années. On en parlait dans la voiture, moi, puis Tony, en s'en venant. Tu sais, pour des gars comme Jacques Doucet, pour Marc Griffin, pour Pierre Arsenault, pour peu importe, là, des maniaques de balles qui ont suivi ça au quotidien.
Des employés de l'équipe.
Mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui étaient des gros fans de l'équipe. Je m'imaginais pendant l'espace d'une seconde perdre le Canadien de Montréal. Hey, je serais déboussolé, ben, là. Oui, moi, je suis déboussolé l'été quand le Canadien ne joue pas. Colin, si c'était pour de bon, là, sérieux, je serais zombie, là. C'était ça.
Non, mais tu sais, l'autre affaire à part de ça, c'est que, tu sais, je me souviens à l'époque, tu sais, le sport professionnel, c'est peut-être le meilleur investissement que les gens d'affaires et les gouvernements auraient pu faire à l'époque.
Ben oui.
Les Nordiques ont été vendus 70 millions de dollars ou 75. On dit que les prochaines franchises de la Ligue nationale vont se vendre à 2 milliards de dollars. Les Expos, le baseball, c'est la même affaire. Mm-hmm. C'était le meilleur investissement. Puis tu sais, là, je vais faire un peu de politique avec ça. Est-ce que ça va beaucoup mieux dans les hôpitaux aujourd'hui? Ça va-tu beaucoup mieux dans les écoles aujourd'hui?
On en parlait justement tout à l'heure, c'est ça exactement. T'sais, on veut.
C'est l'argument qu'on donnait à l'époque.
Absolument.
On peut construire d'un stade parce que là,
absolument.
Ça va-tu bien mieux aujourd'hui?
Non.
Peut-être qu'il n'y a pas de lien pantoute entre les deux. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'il n'y a aucun lien entre le fait d'avoir un club de balle, puis un club de hockey, puis les hôpitaux. Peut-être même que ça n'a rien à voir. Il faudrait peut-être se poser la question à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, là, l'investissement que ça aurait coûté à l'époque vaudrait des milliards aujourd'hui.
Ouais. On aurait rentré dans notre argent et plus.
Puis on parle,
il n'y a pas une scène qui va aller de mes taxes, qui va payer pour ces millionnaires-là et tout ça. Mais ces millionnaires-là, là, ils vont en payer des taxes ici au Québec et au Canada aussi. Ils n'auront pas le choix, là. Puis Alain,
la ville de Toronto et le gouvernement de l'Ontario ont contribué à la construction du Sky Dome à l'époque, ce qu'on appelle Sky Dome. Je pense qu'ils ont mis 50 millions là-dedans, les deux. Pensez-vous que leurs 50 millions, ils l'ont récupéré depuis le temps? À 40 000 personnes par game, là,
ben oui,
en taxes de vente, de billets, de hot dog, de parking, de whatever.
Ben oui, c'est ça. On passe pas plus loin que notre nez, calvasse. C'est ça qui est choquant.
C'est ça qui est un peu... Moi aussi, je trouve que, tu sais, c'est vrai, c'est important, tu sais, les hôpitaux, puis les écoles, puis j'ai aucun problème avec ça, puis la crise des
Mais il n'y a rien de mieux, il n'y a rien qui a bougé. Ça n'a pas amélioré, là.
Exactement.
L'argent qu'on a sauvé, là, sur un club de baseball, là, ils l'ont-tu mis dans les hôpitaux? C'est-tu meilleur, là, que c'était il y a 20 ans? Sérieux,
On s'est mis en petite boule, puis on s'apitoie sur notre sort. C'est ça, la réalité.
Au Québec, on est plus habitué de payer des affaires 2 milliards qui valent 60 millions 25 ans plus tard. Ouais, ça, pis, on est bon là-dedans.
Puis, tu sais, honnêtement, là, je vais aller un peu plus loin. Deux choses. On a refusé de mettre de l'argent dans le stade, un nouveau stade à l'époque. On vient de mettre 1 milliard dans le stade olympique, alors qu'on n'a pas de projet pour le stade olympique.
1 milliard pour réparer une toile.
Ouais, puis alors qu'il n'y a aucun projet pour le stade olympique à venir. Et deux, on dit qu'on a manqué de vision, puis on aurait donc dû faire les choses différentes avec les Nordiques puis les Expos, puis on dit « Ah, oh, mais ça fait longtemps, on ne ferait pas la même gaffe. » Mais je le sais que c'est un sport différent, puis c'est peut-être pas le sport le plus populaire, mais la Coupe du Monde, on avait la chance d'avoir des matchs ici, puis ça aurait eu des retombées économiques énormes. Absolument. Pour Montréal, puis ça aurait été encore une fois de visibilité énorme pour Montréal, puis on a dit « Non, on passe ça parce que ça coûte trop cher. »
Trop cher.
C'est la même affaire. Mm-hmm. C'est la même affaire. Si la Belgique, si la France, si l'Allemagne, si la Croatie, si n'importe quel pays t'a débarqué ici avec leurs milliers de supporters, c'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est les bars, c'est la visibilité, c'est tout. Non. Trop cher.
Mais qui va jouer dans notre beau stade olympique? Qui va jouer là?
Mais il y a une chose, par exemple. Tu sais, la communauté d'affaires est assez frileuse aussi. T'sais, on va se le dire, là. Tu sais, à Toronto, Rogers, tantôt, je disais, ils en mettent de l'argent dans les Blue Jays, eux autres. Puis ils ont dépensé, je ne sais pas si vous êtes allé au Rogers Center récemment, ouais. Ils ont tout refait en dedans, puis ils ont investi des dizaines de millions pour améliorer ça, puis en faire un stade. L'autre affaire, ils ont un toit qui s'ouvre puis se ferme en 20 minutes, eux autres. Ouais. Expliquez-moi comment ça, ils sont capables de faire ça. Puis nous autres, ça fait 50 ans qu'il y a un trou dans le plafond. Ça,
à chaque fois qu'on essaye d'ouvrir le toit, les cordes arrachent.
Ils rouvrent, c'est juste pas volontaire.
C'était-tu pendant le car show?
C'était pas la musée de l'habitation?
Non, je pense que c'était pendant...
Le salon de l'auto.
Salon de l'auto, ça a tombé sur le kiosque de Toyota. Je voulais t'acheter un 4Runner, t'étais fourré.
Hey, souvenez-vous, à l'époque, l'Impact jouait un match au stade olympique. Et le match avait été remis parce qu'il pleuvait dans le stade, même s'il y avait un toit.
Ouais,
et je me souviendrai toujours de l'entraîneur, je me souviens plus de l'équipe que l'Impact affrontait. Le gars avait dit, j'ai toujours pensé qu'un toit, c'était pour empêcher qu'il mouille sur le terrain.
Il est arrivé des choses, rappelle-toi les fameuses lignes pas à bonne place.
Ah ouais.
La game à la TV, la game à regarder, on a peinturé les lignes pas à bonne place.
Il y a eu une game, là, il n'y avait rien à l'intérieur, mais il y avait neigé. Puis là, c'était comme, c'est dangereux, fait qu'on peut pas jouer. Il y a rien qui s'est passé, mais au cas où, fait qu'on annule le match parce que la toile pourrait
céder. Ça a coûté combien, cette toile-là?
On vient de mettre un million là-dedans.
Une bâche chez Canadian Tire.
Ça fait pas mal la même job. On change l'anneau technique.
Ah, c'était un bon discours.
Change l'anneau technique, on fait quoi avec ça?
Sans aucun plan. Après. Now, what's next? Après ça, savoir.
T'aperçois aujourd'hui là, que revoir un club de hockey à Québec puis revoir un club de balle à Montréal, c'est compliqué en tabarouette.
Mais c'était très bon, Alain. On se reparle demain, même heure.
Salut, boys.
Salut, bye-bye.
T'allais laisser Alain Crête parce qu'après la pause, on parle avec le vénérable Claude Raymond qui va venir nous parler. Moi, c'est des images qui sont gravées dans ma tête. Claude Raymond, le 29 septembre 2004. C'est sûr que lui, ça l'a affecté, le documentaire sur les Expos. On y parle dans deux minutes.